Dans l'EM, l'émission dont le nom évoque entre autres le module lunaire, on se devait de marquer les 50 ans du premier homme sur la Lune. Et oui, c'est cette année, puisque c'est en 1969, le 21 juillet, que Neil Armstrong a fait un petit pas pour l'homme et un pas de géant pour l'humanité. Certains préparent même une commémoration d'envergure, comme l'association de reconstitution historique Artisan. Et sur leur base de Saint-Ségal, ils vont nous faire revivre l'événement. Ce sera bien sûr les 20 et 21 juillet. En attendant, l'un d'entre eux, Rémi Toularastel, vient nous faire patienter chaque semaine avec ses chroniques de la Terre à la Lune. Bien sûr, c'est une chronique du lundi, le jour de la Lune.
De la Terre à la Lune, épisode 3. Aujourd'hui, nous allons parler chiffres et techniques. Avant de commencer cet épisode, je vais vous demander une chose. Imaginez une piscine pleine, une piscine municipale classique de 25 mètres. Gardez ça dans un coin de votre esprit. Le 10 janvier 1962, la NASA annonce le lancement du programme de construction d'une fusée qui permettra à l'homme d'aller sur la Lune, la Saturn V. Beaucoup de superlatifs, voire tous, ont été utilisés pour qualifier la démesure, la puissance de l'engin. Elle mesure 110 mètres de haut, autant que l'Arche de la Défense à Paris. Couchée, elle est aussi longue que la place aux foires dans le centre-ville du Fou. Elle pèse 3000 tonnes au décollage. Elle peut envoyer en orbite une charge de 140 tonnes. Par comparaison, une fusée Ariane 5 peut envoyer 20 tonnes. Elle produit au décollage 228 décibels. Par comparaison, un avion au décollage produit 130 décibels. Pour info, tous les 3 décibels, le bruit double en intensité. Je vous épargne les calculs. La Saturn V est 800 millions de fois plus bruyante qu'un avion. Ce qui fait de la Saturn V la réalisation humaine la plus bruyante jamais enregistrée, à l'exception d'une bombe atomique. Vous vous souvenez de la piscine du début de cet épisode? Maintenant, elle est vide. La consommation des 5 moteurs du premier étage est telle qu'ils peuvent vider une piscine en une minute. Une fusée de cette taille est indispensable pour envoyer le train lunaire vers la Lune. Ce train lunaire est composé d'un module de commande, CM, où les astronautes passent la plupart du temps, d'un module de service, SM, qui est un peu le local technique de la mission, et enfin du module lunaire, plus connu sous le nom de LEM. Ces sigles ne sont utilisés que pour les descriptions techniques. Pour chaque mission Apollo, l'équipage baptise le module de commande et le module lunaire. En ce qui concerne la mission Apollo 11, le module de commande est nommé Columbia. Il faut y voir une double référence. D'abord à Christophe Colomb, ensuite au canon qui envoie des hommes autour de la Lune dans le roman « De la Terre à la Lune » d'un certain Jules Verne. Le module lunaire reçoit le nom Eagle, aigle en français, symbole des États-Unis. Le nom Apollo a été trouvé un peu par hasard en juillet 1960. Le directeur des programmes spatiaux de l'époque parcourt un livre sur la mythologie grecque. Il tombe sur une illustration du dieu Apollon sur un chariot se dirigeant vers le soleil. Les Apollo américaines se contentent trop de la Lune, ce qui est déjà pas si mal. Le temps est venu pour commencer les essais. 3 vols sont programmés en 1966 pour tester les nouveaux systèmes créés pour les missions Apollo. Cela ira du saut de puce jusqu'à la mise en orbite du module de commande. Les premières tentatives sans équipage sont des réussites. Le premier vol avec équipage est prévu pour le 21 février 1967. L'équipage est composé de Virgil Grissom, le commandant, Edward White, le pilote du module de commande, et Roger Chaffee, le pilote du module lunaire. Le 27 janvier, des essais au sol ont lieu dans les conditions d'un lancement. Cela signifie que l'équipage prend place dans le module de commande. Ils ont revêtu leur scaphandre, la fusée est autonome et les communications se font par radio avec les contrôleurs de vol. Les conditions de ce test ne sont pas idéales. De nombreux soucis techniques ralentissent les procédures. La communication radio est parasitée par des grésillements. Cela fait 5 heures que les astronautes sont dans le module de commande. Chaffee annonce un début d'incendie. White tente immédiatement d'ouvrir la trappe qui se trouve au-dessus de lui. Chaffee hurle que l'incendie est particulièrement violent. 15 secondes après l'annonce du début de l'incendie, plus de réponse des astronautes. Il faudra 5 minutes aux secouristes pour ouvrir la trappe du module et 90 de plus pour sortir les corps des malheureux. L'enquête qui suit identifie plusieurs facteurs déclencheurs, voire aggravants, qui ont mené à cet incendie. Des circuits électriques mal isolés, une atmosphère exclusivement composée d'oxygène, ce qui facilite la propagation du feu. La cabine est littéralement tapissée de bandes velcro qui ont la particularité d'exploser dans une atmosphère d'oxygène pur. Les combinaisons des astronautes ne sont pas ignifugées. Il faut 90 secondes pour ouvrir les trappes pour sortir du module de commande. Ce détail technique nécessite un petit retour en arrière. Virgil Grissom, le commandant, a déjà volé dans l'espace. Il est même le deuxième Américain à le faire. C'est au cours de la mission Mercury le 21 juillet 1961. Au retour de cette mission, il est victime d'un incident. Sa capsule a atterri sans problème, mais une trappe s'ouvre prématurément et le vaisseau Mercury prend l'eau et commence à couler. Grissom s'en tire avec une grosse frayeur. Cet incident mettra en évidence un problème avec l'ouverture automatique des trappes. On décide de complexifier la procédure d'ouverture des trappes des modules Apollo. Grissom aura donc été victime à deux reprises d'un système censé le protéger. Le destin fait parfois preuve d'une ironie amère. Un mois avant le drame, Virgil Grissom fait part de sa vision du danger. Il y a des risques, comme dans tout programme expérimental, et tôt ou tard, nous allons inévitablement perdre quelqu'un. J'espère que le peuple américain n'aura pas l'impression de payer un prix trop élevé pour notre programme spatial. Nous n'avons jamais été engagés dans un vol habité loin de la Terre. Et si ça tourne mal là-bas, nous savons qu'il n'y aura aucun secours à attendre. Le chef des astronautes, Donald Slayton, déclare juste après le drame « Je suis persuadé que nous aurions fini de nous casser la figure à plusieurs reprises avant d'arriver sur la Lune. Peut-être même que nous n'y serions jamais arrivés sans Apollo 1. Nous sommes tombés sur un nid de vipères qui nous aurait donné bien du fil à retordre par la suite. Les problèmes auraient été réglés petit à petit sur plusieurs vols, en zigouillant plusieurs personnes au passage. L'incendie nous a obligés à arrêter le programme et faire le grand nettoyage. » Les vols habités ne reprennent que fin 68. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai dans le prochain épisode.